Une vie, une œuvre, Nusrat Fateh Ali Khan, Faisalabad, 1948, Londres, 1997. Bonjour. Non sans malice, le documentariste d'aujourd'hui aime rappeler que la renommée planétaire de Nusrat Fateh Ali Khan équivaut à celle d'Elvis Presley. Ils sont morts à 20 ans d'intervalle, un 16 août, et des millions de leurs disques sont encore vendus aujourd'hui. Mais comme l'indiquait Bouziane Daoudi dans Libération, quand le rocker à la chevelure levantine semait le trouble par ses déhanchements pelviens, Nusrat Fateh Ali Khan, lui, assis sur un tapis, entouré de ses musiciens et choristes, se serre le cœur d'une main, lève le doigt au ciel de l'autre, joint l'index au pouce et les agite frénétiquement, comme s'il voulait inscrire dans l'air la marque pourtant invisible, la preuve de son attachement incommensurable pour le Tout-Puissant, son messager Mahomet et son gendre et cousin Ali. Du Qawwali, chanté depuis le XIIe siècle dans les lieux de prière soufie en Inde du Nord et au Pakistan, la France savait bien peu quand le chanteur fut invité pour 3 concerts au Théâtre de la Ville à Paris en novembre 1985. Allait suivre en 1988 un concert mythique enregistré à Radio France puis édité par le label Okora. Qu'il improvise 10 minutes ou une nuit entière, il fait figure de maître, incarnant une grâce divine. Michel Pomarède signe avec Gaël Gillon « Une vie, une œuvre, Nusrat Fateh Ali Khan ».
Nusrat Fateh Ali Khan, le héros du Qawwali. Michel Pomarède, Gaël Gillon. Retracer la brève existence du chantre génial du soufisme, c'est bien sûr donner quelques jalons de sa carrière au Pakistan, sa terre natale, puis évoquer son rayonnement international. Mais c'est d'abord plongé aux racines de cet hymne à la joie orientale, cette ode à l'amour divin qu'est le Qawwali, et dont Nusrat fut le troubadour inspiré et irremplaçable. Au commencement était le verbe, nous rappelle la traductrice Saïda Haider.
Qawwali vient d'un mot, qol, c'est un mot arabe, et qui veut dire parole. En fait, le Qawwali a été inventé par un génie au XIIIe siècle qui s'appelait Amir Khusro, sous l'ordre de son pire, c'est-à-dire du saint soufi qu'il suivait. Parce que, étant donné que ça vient du fait que les musulmans étaient nouvellement installés en Inde, et l'Inde était à l'époque la patrie de tous les gens qui n'avaient pas de patrie. Donc, ces musulmans se sont réfugiés là-bas parce qu'ils étaient souvent persécutés chez eux. Mais ils ne parlaient pas la langue du pays, mais ils n'avaient pas la même religion. Pour se faire connaître, ils ont voulu aussi montrer qu'ils n'étaient pas venus en conquérant là-bas et qu'ils étaient venus justement pour s'installer, que leur but n'était pas du tout agressif, mais surtout de se fondre à la population multiculturelle de l'Inde déjà à l'époque. Donc, pour présenter leur religion, pour présenter leur art aussi, ils ont trouvé ce moyen, parce que faire des discours et tout était très compliqué. On comprend beaucoup moins les discours que la musique et ça passe mieux. Et ils ont inventé cette forme géniale où ils présentaient les paroles du prophète, des saints soufis ou des membres de sa famille sous une forme très simple, c'est-à-dire avec de la musique, et c'était très attrayant pour les gens. Donc ils ont ouvert des sanctuaires, et ces sanctuaires n'avaient ni porte ni fenêtre, ils étaient ouverts à tous. Ils se réunissaient là tous les jeudis soirs pour chanter les louanges de Dieu, rendre hommage au prophète en prononçant ses paroles. Donc Amir Khosrow, il a respecté la volonté de son maître qui s'appelait Nizamuddin Aulia, qui lui a donné l'ordre justement de présenter cet art sous une forme musicale. Et Amir Khosrow, si vous voulez, c'était quand même un peu notre Léonard de Vinci, qui connaissait tout, qui avait des lumières enfin, en science, en art, surtout musique. Donc, il a donné la forme à la musique hindoustani, qui était un peu différente, enfin, qui était surtout une musique qui maintenant existe encore dans l'Inde du Sud. Et là, il a presque tout remis en place. Il a donné les notes à la musique hindoustani et il a présenté cet art tiré des paroles du prophète et de ses disciples et de sa famille, qu'on appelle Qawl, et qu'il a nommé Qawwali, c'est-à-dire la présentation des Qawl.
Martina Catella est musicienne et musicologue. Sa passion pour le qawwali l'a conduite de nombreuses fois au Pakistan ces 20 dernières années. Retour sur ses premières impressions.
La première fois, j'ai fait l'erreur suprême de considérer le qawwali comme une forme concertante, parce que c'est effectivement extrêmement impressionnant. Toute cette bande d'hommes, donc 12 hommes, non pas en colère, mais 12 hommes virulents, en général, rappelés comme des rugbymen, avec des percussionnistes centraux qui soutiennent la parole, un chœur qui soutient ce que lance le chanteur principal, et des vocalistes autour qui reprennent sa parole pour la chantourner, la calligraphier autour, etc. Enfin, c'est vraiment une forme vocale et musicale extrêmement puissante. D'ailleurs, elle a été faite et pensée dans ce sens. C'était vraiment pour avoir un impact sur une population principalement populaire, on va dire. C'est-à-dire pas une population d'amateurs de musique classique, même si on verra plus tard avec Nusrat, les choses ont changé. Le genre s'est beaucoup raffiné, pas seulement avec Nusrat, mais entre autres avec lui.
Pierre Limbo, Nusrat Fateh Ali Khan, le messager du qawwali. C'est le titre donc de la biographie que vous avez consacrée à Nusrat, la seule biographie qu'on trouve en France, et une biographie que vous avez écrite en 2008 et qui a été traduite l'année dernière en ourdou, la langue des musulmans du sous-continent indien, et en anglais, et ça s'arrache
l'an dernier
comme des petits pains cette biographie. Bon, avant de parler de la vie de Nusrat, est-ce qu'on pourrait planter ensemble le décor de sa famille ?
Nusrat est effectivement une la figure contemporaine, mais il est précédé par des générations et des générations de Qawwal, les chanteurs de Qawwali. La légende familiale voudrait que sa famille soit venue il y a déjà bien des siècles d'Afghanistan. Donc ils sont établis dans le nord du Punjab, dans la partie indienne du Punjab maintenant, Jalandhar, autour de la tombe de leur saint patron de la grande famille. et ils sont restés là de père, mère, en fils et filles depuis des générations. Nusrat a 7-8 générations attestées de Kabwa dans la famille, mais en fait c'est surtout son grand-père et surtout son père et son oncle, Fateh et Moubarak, qui semblaient avoir été reconnus dès les années 30-40.
Avant la partition du 15 août 1947, Saïd Haider, sur la radio indienne, All India Radio, il y avait du Qawwali. Ensuite, ça a disparu, mais le nouveau pays des purs, le Pakistan, est-ce que le Qawwali n'est pas devenu l'emblème national de ce nouveau pays ?
Oui, parce que c'était le meilleur moyen, justement, de... C'est une forme très attrayante. Parce que qui convient à tout le monde, aux riches, aux pauvres, et à toutes les occasions, c'est-à-dire pas seulement des célébrations, des commémorations. Vous pouvez même chanter le Qawwali pour des deuils, pour des anniversaires, des mariages, à toutes les occasions. Donc le Qawwali est devenu une forme presque populaire, alors qu'en Inde, elle était souvent réservée surtout à une élite et puis d'autres personnes qui venaient écouter pour propager. C'était un peu, ils jouaient aussi le rôle de troubadour. Mais là, au Pakistan, c'est devenu populaire justement parce que, vu sa forme musulmane, enfin... et islamique, et puis en plus les paroles qui étaient très belles, mais qui, il n'y a aucun mot d'agressivité, tout est attirant dedans, c'était très très, enfin beaucoup de charme. Donc il y a toute cette partie là et en plus ça a été enrichi avec le folklore de chaque province aussi. Par exemple, ils ont adopté des touches Sindhi aussi, ils ont ajouté les touches Baloch, arabes aussi, qu'ils n'avaient pas utilisées avant.
Et à propos de frontières, c'est assez extraordinaire d'avoir pensé mettre les frontières exactement sur la ligne Maginot des soufis, c'est-à-dire là où il y a le plus de sanctuaires soufis, c'est là où ça brutit d'anglais à imaginer mettre cette frontière-là, et où les soufis aimeraient bien pouvoir passer d'un endroit à l'autre pour pouvoir rendre hommage à leurs saints, quoi. Je crois que le père de Nusrat et Nusrat, qui avait été évidemment élevé dans... la connaissance de tous ces textes, etc. Mais c'était aussi des musiciens, des grands musiciens classiques. Et je pense que quand la partition a eu lieu, que ces grands musiciens qui pouvaient chanter pour des gens extrêmement cultivés, comme pour des gens très pauvres et très populaires, quand ils se sont retrouvés au Pakistan, dans un pays tout neuf, ils n'ont pas forcément eu de patronage, de gens pour demander, enfin c'était peut-être pas la priorité à ce moment-là, d'aller vers des formes musicales très sophistiquées, etc. Donc je pense que c'est pas un hasard aussi si les Qawwalis se sont installés dans les villes industrielles. Par exemple, la famille de Nusrat s'est installée à Faisalabad, qui est une sorte de ville textile au nord de Lahore, c'est une sorte de pays des ch'tis et de l'industrie textile. Voilà, donc c'est vrai qu'à Faisalabad, ils secouaient je ne sais quel arbre et ils tombent des Qawwalis de tous les côtés, dont la famille de Nusrat.
15 août 1947, Pierre Alain Beau, partition indienne. 13 août 1948, naît Nusrat, mais son père, Fateh, ne nomme pas d'abord Nusrat.
Pervez. Ce qui n'a pas plu à un saint homme qui passait par là et disait que ce n'était pas le nom qu'il fallait lui attribuer. Par contre, Nusrat, voie vers le succès, était le nom qu'il lui a donné quand il était tout bébé, quoi, en fait. Il était déjà bien, bien gros. Mais c'est vrai que pour Fateh, il ne comptait pas du tout que son fils soit Qawwal, compte tenu de la dureté la profession de Kawal, ça voulait dire bouger énormément d'un sanctuaire à un autre, d'un concert privé à un autre. Il y avait déjà pas mal de concerts privés à l'époque. Par ailleurs, il visait plus un statut de médecin, d'ingénieur, de médecin, en fait.
Ça, c'est son père.
C'est son père, oui.
Le destine
à ça. Et
le petit Nusrat joue de l'harmonium tout seul dans son coin.
Ouais, en cachette, il joue de l'harmonium. Et puis, il est surpris une fois... en jouant et en chantonnant avec par le père qui se dit « Ah, il a peut-être des facilités, des inclinations, des dons. »
La voix frêle de Nusrat qui évoque la figure paternelle au micro d'Alain Weber en
1988. अपने काम में वो एक ही आदमी थे तो बल्कि हमारा खानदान जो है वो कई पिश्तों से चला आ रहा है तकरीबन 5-600 साल से जिसमें से बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे फनकार होते आए मसलन
Mon père était un artiste très indépendant. Notre famille est liée à la musique depuis 700 ans et nous en sommes très fiers. C'était un homme de principe, un homme vigoureux. Il punissait, mais il aimait chacun, fils ou neveu, d'une manière très personnelle. Ses élèves étaient très nombreux, car en plus du chant, il savait jouer et enseigner différents instruments, tels le sitar, le sarod, le violon ou le tabla.
रेडियो पर पहली रेडियो पाकिस्तान पर पहली परफॉर्मेंस थी जश्न-ए-बहारा में
Mon père est mort lorsque j'avais 15 ans et j'ai décidé alors d'être artiste à part entière. Ma première prestation a eu lieu 40 jours après sa mort selon le temps de deuil réglementaire.
उनकी सोबत से और उनके उनसे कुछ हासिल करने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो मेरा भी नाम होता गया दुनिया में मजार
Je suis allé à la radio chanter, puis en songe, une lettre est arrivée de l'Inde. Il s'agissait en fait d'une prophétie du saint homme Rawaja Muhyiddin Chisti de la ville indienne d'Ajmer. Rawaja Muhyiddin Chisti, fondateur de l'ordre soufi Chistiya du XIIe siècle, voyait en moi un grand artiste, l'héritier spirituel de la famille. Mais si mon inspiration vient de Dieu et est un don, elle est aussi le fruit d'un long apprentissage. J'ai appris beaucoup avec mes oncles et aînés, tels Oustad Mubarak Aliran et Nawar Saliran. Et depuis 1964, j'ai travaillé plus de 12 heures par jour.
Là, ça me fait penser tout à coup, je me souviens que dans mes premières visites chez Nusrat, j'avais été amusée parce qu'il vivait sur un lit absolument énorme, sur lequel il y avait son clavier électrique pour toutes les harmonisations qui n'ont rien à faire normalement avec la musique hindoustanienne, son clavier électrique, son harmonium et des tonnes de bouquins et de cahiers avec tous les poèmes effectivement qui lui étaient le plus cher. Et c'est quelqu'un qui était continuellement en train de chercher. Et de chercher le sens, de discuter des heures et des heures sur le sens d'un vers. Les vrais grands kawals, c'est ce qu'ils font, quoi. Ils se visitent mutuellement quand quelqu'un est dépositaire de texte dont l'autre n'est pas le premier récipiendaire. Il va chercher le sens des mots chez celui à qui on a confié la mission de faire entendre, de révéler ce texte musicalement. Donc Nusrat, c'est quelqu'un qui bossait tout le temps. Ces gens qui venaient aussi de la musique classique ont introduit dans un genre qui était quand même plus populaire, je veux dire, C'est pas hiérarchique, hein, ce que je dis. En fait, la musique indienne peut se diviser en trois catégories, et c'est qui n'a rien à voir avec la hiérarchie, mais qu'on va voir avec la place que la musique occupe par rapport au texte. C'est-à-dire que la musique classique, elle est essentiellement dans le développement musical. C'est un peu comme chez nous, quoi. La musique savante occidentale, quand on chante un Ave Maria, c'est pas la peine de raconter la vie de Marie, on sait ce que ça veut dire. Tout se trame, tout se développe musicalement sur ce simple mot. Donc la musique classique, c'est ça. C'est tout ce travail dans le développement musical et dans les règles du raga, évidemment. Et ensuite, on a la musique semi-classique, et c'est là où va rentrer le qawwali. C'est comme le tumri, le qawwali, par exemple, c'est une musique où le texte et la musique sont importants à part égale. C'est-à-dire qu'on part, mais c'est quand même le texte le patron. C'est-à-dire que on part du texte, et c'est le texte qui va générer des développements musicaux, etc. Enfin, qui vont inspirer les développements musicaux. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la musique populaire, qui elle est vraiment que dans le texte, le récit, les épouses, les trucs comme ça.
Pierre Alain Beau, 23 mars 1965, Lahore, Nusrat a 17 ans, et ouais, c'est son premier concert en public. Est-ce que vous avez entendu ce concert? Et est-ce que c'est la première marche vers la consécration du chanteur, du messager
là,
du qawwali?
C'est la première marche vers un concert de Radio Pakistan qui faisait un festival de musique pakistanaise qui était très couru avec tous les qawwals notamment, tous les autres chanteurs d'autres styles. Et là, effectivement, au début, il accompagnait seulement il était là dans le groupe familial, mais en accompagnement de son oncle. Et au moment de la balance de son, le producteur se rend compte que ce petit gars-là a une voix particulière, une présence particulière, et il demande à l'oncle de pouvoir qu'il puisse jouer en solo, interpréter en solo. Et là, il bluffe tout son public, non seulement la famille qui s'attendait un petit peu, même s'il n'était pas a priori à être en début parce qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Mais là, effectivement, il commence là à être connu sur la scène nationale.
Je l'ai rencontré pour la première fois là-bas, et en 1975, il s'était vraiment imposé. Et il a reçu une reconnaissance nationale parce que c'était justement aux commémorations, aux célébrations du 700e anniversaire de Amir Khusro. Donc Nusrat, qui était aussi un très grand qawwal classique, ils ont tous une formation classique. Donc Nusrat avait été invité en même temps que les autres grands qawwal de l'école d'Amir Khusro, c'est-à-dire les qawwal bache de l'Igharana. Il y avait aussi du côté du Punjab, il y avait Meher Ali, Sher Ali, et la famille, enfin, il n'y avait pas plus le père de Nusrat, donc Nusrat était invité. C'est là où je l'ai connu et vraiment découvert.
...1985, rencontre avec Peter Gabriel,
oui.
Pierre Alain Beau. Est-ce que c'est une rencontre pour le meilleur ou pour le pire, pour Nusrat?
Les deux. Non, ça a été une rencontre pour le meilleur dans le sens où ça lui a donné une reconnaissance complémentaire à celle qui va être celle du Théâtre de la Ville, qui était dans un style beaucoup plus classique, traditionnel. Puis Gabriel va très vite le mettre sur des dynamiques de fusion, de mélange. Alors là, effectivement, pas forcément pour le meilleur, mais ça lui donnera, ça donnera une audience à Nusrat qu'il n'aurait pas pu avoir s'il était resté dans le circuit exclusivement traditionnel. Notamment quand on était au Brésil, Nusrat était connu par les disques Real World. Bon, sachant que Gabriel, c'était les festivals WOMAD, il n'y en a pas eu tant que ça. Le Théâtre de la Ville a organisé
le premier
plus.
WOMAD, donc
World of Music, Arts and Dance, c'est à Mercy Island, juillet 1985.
Ouais. Premier où il était, où Strat a joué, effectivement.
Il arrive, et à minuit.
À minuit, en principe pour une heure et demie. Et en fait, il tient jusqu'à 4-5 heures.
Nusrat, par ailleurs, oui, me troublait parce que justement, il donnait à cette parole que je ne comprenais pas, à laquelle je n'avais pas accès à ce moment-là, il lui donnait une dimension musicale transcendante, complètement folle, que seuls quelques très grands musiciens réussissent à faire dans tous les genres de la planète, une fois de temps en temps. C'est-à-dire que lui quittait les mots pour développer le sens dans le son.
Après avoir subjugué la foule britannique en juillet 1985, Nusrat va transporter le public français lors de trois concerts les 8, 9 et 10 novembre 1985. On doit ce coup d'éclat parisien au flair de la conseillère artistique du Théâtre de la Ville qui a déniché Nusrat au Pakistan, Souda Bekia. Souvenir.
Là, c'était quand même, oui, c'était quelque chose d'inattendu pour tout le monde, je crois. Même pour moi, je ne le cache pas. C'est-à-dire que j'avais quand même beaucoup insisté qu'on le fasse, je le croyais, mais je ne vais pas vous le cacher, tout le monde était dépassé par le succès. Et surtout à Paris, personne ne venait. Moi, j'ai fait quand même jour et nuit, on a fait les quartiers pakistanais. Et comme ça, pour essayer, on a trouvé des amis, des marchands pakistanais qu'on est toujours restés en contact, qui venaient de même ville que Nusrat. Et donc, on a essayé avec eux. Il y avait énormément de Pakistanais dans la salle et ils n'osaient pas venir au Théâtre de la Ville. Donc, vous les voyez. On les voyait 3 ou 4 jours avant de rôder autour au Théâtre de la Ville parce qu'ils ne voulaient pas. C'est des gens qui n'ont quand même pas beaucoup de moyens. Et moi, j'étais là pour dire « Ah, vous venez pour regarder pour Nusrat ?» Oui, c'est après-demain, on expliquait ça. Et finalement, on a rempli. Et comme il y avait les Pakistanais, l'ambiance était vraiment première concert ici comme le Pakistan. En fait, ils se sont levés. Ils sont allés, il y en avait avec l'extase, et il y avait les médecins, je me souviens très bien que je le surveillais de très près, et parce que si jamais les médecins ici qui ne savent pas intervient quand quelqu'un est en extase, il peut devenir fou. Donc quand le médecin s'est levé, moi je me suis jetée sur le médecin pour l'empêcher. Et en fait on a laissé les Pakistanais pour le calmer, les 3 ou 4 personnes qui étaient vraiment rentrées en transe. Donc c'est ça, moi en fait j'ai pas vraiment écouter le concert, j'étais tout le temps en train de regarder que si, parce qu'on a toujours des médecins dans la salle, et en fait pour pas qu'il touche, sinon il devient fou. C'est ça qu'on m'avait déjà expliqué, que j'avais appris au Pakistan d'ailleurs.
Pour moi, c'est un feu qui arrive, une vague déferlante, tout à la fois sur scène et dans la salle, où le public réagissait comme ils réagissent au Pakistan, en se levant, en allant mettre des demandes de chant d'interprétation de tel ou tel poème, en le couvrant de billets. Certains à gauche, à droite, en haut, en bas de moi, commençaient à bouger étrangement, de façon un peu désordonnée, et tout d'un coup à se lever en extase. Et le rôle d'une fat était à ce moment-là, comme au Pakistan, d'accompagner ces gens, surtout pas de... Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore trop de sécurité. Heureusement, maintenant, je ne sais pas si ça serait possible. Mais surtout pas d'arrêter et de l'apaiser, mais au contraire, de l'accompagner durant un certain temps, le temps de développer un certain nombre de couplets. Mais cette voix, cette présence, cette capacité qu'il a eue à nous enlever, à nous prendre sur son tapis volant, pof, et à nous enlever, et du début à la fin, c'était cette émotion qui te possède, qui fait que, À la fin, on se regardait dans le public, on disait, mais qu'est-ce qui s'est passé là?
Pierre Limbaud, Nousrat, c'est un corps un peu volumineux, une voix, mais est-ce que aussi c'est un geste?
Ah, bah oui, c'est le fameux la main droite levée, le bras droit levé.
Mais ce bras droit, il désigne quoi? Est-ce qu'il étire la note, mais vers qui?
Il étire la note vers le tout-puissant. Bon, tout puissant qui est intérieur, mais effectivement, bon, on le loge pas par en haut, et puis c'est une, il l'élève, et c'est un, et en fait ça, c'est drôle, il y a beaucoup de kawal qui lève le bras effectivement, mais pas à ce point. Nousrat, c'était vraiment, mais Nousrat était habité hein, par l'amant divin, complètement. Voilà. Donc effectivement, c'était une prolongation de son être intérieur.
L'amour que l'on porte à Dieu ne peut pas être comparé à l'amour qu'on ressent pour une femme, parce que l'amour de Dieu se passe à un tout autre niveau, c'est au niveau de la spiritualité.
Par exemple, il y a un poème de Boulécha qui est mon saint Sophie préféré. C'est parce que c'est un insolent et qui provoque tout le monde, à la fois les orthodoxes hindous, musulmans et les autres. Et c'est un Punjabi, et Nusrat était Punjabi, donc il chantait beaucoup de Boulécha. Et d'ailleurs, la bague que je porte vient de son sanctuaire, parce que c'est là que j'ai eu la révélation de la manière dont je devais faire mon métier. Et donc, il y a un poème de Boulécha qui raconte, comme il est souvent d'usage, que la fiancée, parce que souvent le poète, comme dans le Cantique des Cantiques, s'adresse au bien-aimé, à Dieu, en adoptant le vocabulaire amoureux d'une fiancée, d'une épouse, ce qui permet aussi d'aborder la question d'un amour presque sensuel, quoi, et presque excessif, etc. Donc la fiancée attend son amour. Et le poème s'appelle Merapia Garaya, Garaya. Bon, mon amour va revenir à la maison. Et donc pour le retour de cet amour qui est parti, donc ça c'est la grande thématique du soufisme, c'est-à-dire il y a eu cette séparation, ce firak abominable qui fait que l'être humain est séparé du tout, du bien-aimé, et jeté sur terre pour faire l'expérience de la vie. Et évidemment, sa quête c'est de le retrouver, de le re-rencontrer, le vaisseau, pour ensuite se dissoudre en lui, le fana, etc. Donc voilà, la fiancée l'attend. Et elle défait ses cheveux, elle se peint les mains au henné, elle monte sur la terrasse, elle descend, enfin elle n'arrête pas de faire les 100 pas pour voir s'il arrive. Et voilà, et donc elle devient un folle d'amour, quoi. Et par exemple Nusrat, je sais que dans ses réalisations musicales, lui dans ses montées et ses descentes, inversait justement les mouvements musicaux pour montrer l'état de confusion dans lequel se trouvait la fiancée. Donc voilà, ça c'est une des façons de réaliser la musique. Par exemple, quand il parlait de la distance, sur le mot doux, c'est long, enfin, évidemment il traîne pendant interminablement comme on étire un élastique pour le terminer, ensuite il y a une rupture. Donc c'est un art que tous les grands interprètes des grands textes dans tous les genres vocaux de la planète savent consomment au maximum, mais lui c'est un génie de ça.
Yeah.
Et c'est vrai qu'il a donné des concerts magnifiques au Brésil. On était ailleurs, c'était la folie partout, quoi. Pourtant, les gens ne comprennent pas.
Au Japon.
Mais c'était au Japon. Non, les Japonais, c'était trop drôle. Parce qu'ils sont venus deux fois au Pakistan, Faisalabad. Comme les Japonais, comme moi, j'ai beaucoup travaillé avec le Japon, donc je connais, ça ne m'étonne pas. Ils mesuraient même la distance entre les musiciens, combien de centimètres. On était ensemble, hein? Jusqu'à là. Et après, ils ont absolument voulu qu'ils disent des poèmes, qu'ils chantent, mais ils changent tout le temps. En fait, ils ont fait, évidemment, ils chantent d'autres choses. En Inde, le plus grand succès, en fait, parce que pendant des années, Nusrat avait vraiment envie d'aller en Inde. Et moi, à chaque fois que j'allais en Inde, que j'allais plusieurs fois dans l'année, je lui amenais des copies des cassettes qui étaient vendues en Inde. C'était très connu à Delhi et à Mazar. Et on ne lui donnait jamais de visa. Tout le temps, c'était refusé. Jusqu'à le moment qu'il y a les gens de Bollywood et de Grande et le cinéma, ils sont intervenus. Évidemment, ils ont eu de la permission. Et là, c'était vraiment l'émeute. Et il était très heureux parce que quand il était en Inde, au fait, il n'était jamais seul, les gens discutaient, les grands, tout le monde venait le voir. Et moi, j'étais là-bas pendant une semaine avec lui en Inde. Évidemment, pour les enregistrements, je suis allée une fois. Après, je dis, c'est pas pour moi. Mais par contre, le soir, j'allais avec lui dans les dîners de tous les actrices et acteurs de Bollywood. C'était génial. Si tu suis des kitsch, vous ne m'en voyez jamais, non? Donc pendant une semaine, moi, j'étais avec lui, j'allais à tous les... Et à chaque fois qu'on allait quelque part, il m'a dit non, elle, traditionnelle. Donc c'est tout de suite. Non, on a passé des très bons moments.
Quand il voyageait, il s'enfermait dans sa chambre pour écouter les jingles publicitaires qui passaient à la télévision pour essayer d'avoir une idée de l'image acoustique des pays très rapide, donc une image acoustique très rapide, des pays qui le recevaient. Et il comprenait très très vite, quoi, parce que c'était la signature acoustique d'un truc qui accroche le public, quoi. Et il l'introduisait le soir. Donc ça, c'est vraiment une des particularités du Kawal et de Nusrat, évidemment, particulier. Et il s'amusait parce qu'il savait très bien que Ce kawali, c'est une forme bouleversante, quoi, forte, et que le message véhiculé, qui est un message d'amour extrêmement puissant, de tolérance, enfin, qui n'a évidemment rien à voir avec tout ce qu'on nous, on essaye de nous faire savoir de l'islam. Donc il savait que tout ça pouvait avoir un impact et ouvrir le cœur des gens, à défaut de les convertir. Mais ça arrivait qu'ils convertissent, parce qu'il ne faut pas oublier que le kawali, c'est un idiome inventé par des missionnaires, quand même, pour convertir les gens du sous-continent indien et ensuite les maintenir dans ce message d'unicité. Et donc je sais qu'un jour, je discutais avec un ami et il me dit, cette année, je crois que j'ai fait 3 japonais, 2 italiens, etc. Il parlait des convertis. Sarki ki har nigah ba bella ke pi gaya
Sarki ki har 1990, donc les années 90, Nusrat rencontre la world music, est remixé, parfois déformé, il se retrouve dans des musiques de films. Un jeune musicien l'écoute en boucle, c'est Jeff Buckley.
La rencontre de Jeff Buckley a été effectivement pour lui, la rencontre musicale d'abord, a été une déferlante, un séisme majeur dans la vie de Jeff. Il a découvert à un moment en plus où il n'avait pas très, très bien personnellement, et il dit que c'est la voix de Nusrat qui l'a permis à ce moment de passer ce passage très dur. Eh ben, ils ont réussi à se voir quand même une fois dans une fin de concert, je crois. Et là, la rencontre a été immense pour Jeff, tant et si bien d'ailleurs que quand il est mort prématurément avec cet accident, la même année que Nusrat, quelques mois avant Nusrat.
En mai 1997, ouais. Le jour de sa mort, ses amis ont passé un air de Nusrat.
Ouais, ouais.
Mais avant ça, il y a un petit concert dans un bar qui s'appelle Ciné Café, où Jeff Buckley imite
Nusrat. Imi Nusrat, et chantant Yejwal Kalka Zururhe. Et c'est assez fascinant.
جب سده کنتی نان کن ام هدم حاله هر بک مسترت چور تو ها ها یه جا هر که هر که یه تبیل اکتیس اکتیس that's what they do in Pakistan یه جا هر که
Généralement, on part d'un poème de Doline ou d'un quatrain qui appartient à la tradition ou à un poète moderne. Enfin, de toute façon, c'est ouvert. Qu'on pose tranquillement dans un roubaï, c'est-à-dire vraiment, on expose le texte. Après, quelquefois, avoir introduit un alap, plus ou moins long, là aussi, ça dépend complètement de ce que le chanteur principal, le Mori, sent de l'attente d'un auditeur. Donc il y a, si on fait les choses dans l'ordre, il y a une petite introduction à l'harmonium, on appelle un arma, et là où excellait d'ailleurs le frère de Nusrat, et d'ailleurs d'une façon assez surprenante, mais ça on y viendra, c'est vraiment les kawels, qui sont des éponges à tout ce qui est bon, à tout ce qui est beau musicalement. Et quelquefois dans ces narmas très très créatifs, parce que lui c'était vraiment une sorte de art tatoum de l'harmonium, le frère de Nusrat. Dans ces narmas, un jour je me souviens, j'avais entendu quelque chose qui ressemblait à une tarentelle, ce qui m'étonnait beaucoup. Et j'ai demandé donc à la personne qui m'aidait de bien vouloir m'expliquer ce qui se passait. Et il m'a dit bah oui, non, mais c'est normal, ils arrivent d'Italie. Donc voilà, une autre fois, je reconnaissais des rythmes qui ressemblaient plutôt à du twist. Et là, c'était normal aussi, parce que ça faisait partie des disques qu'ils avaient écoutés à l'époque. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est la partie harmonium, qui peut être extrêmement créative. C'est rarement le cas, mais il se trouve que dans l'équipe de Nusrat, c'était le cas. Parce que donc, son frère est un génie de ça. Et puis ensuite, donc, on fait un alap, c'est-à-dire c'est une partie lente, sans parole, qui pose plutôt... le climat d'un raga, alors c'est plus ou moins développé parce qu'encore on est dans le kawali, et le kawali c'est un genre qui est issu de la musique savante hindoustanie, mais il a des libertés parce que précisément il véhicule du texte que n'a pas la musique classique. Et donc, on n'est pas obligé de développer le raga en passant par toutes les notes et en redescendant par toutes les notes. Comme vous le savez, c'est vraiment des règles extrêmement précises. Après cette alap, en règle générale, donc, on pose les éléments d'un poème, soit un razal, donc un poème andistique, soit un roubaï, un quatrain, etc. Donc, qui peut appartenir soit un des grands poètes soufis s'exprimant dans toutes les langues de la planète, du soufisme évidemment, soit venir du kawal lui-même, qui peut être auteur-compositeur de la composition principale. De toute façon, il est auteur-compositeur de tout ce qui va suivre, comme on va le voir. Et puis ensuite, cela étant posé par le principal, celui qui a vraiment la charge des textes, on va commencer à introduire le rythme, donc avec les tablas, les dôles. Donc les tablas, tout le monde sait ce que c'est maintenant, c'est deux tambours. Dans le kawali, le tabla grave, c'est aussi une des blagues que les musiciens classiques font au kawali, c'est qu'il semblerait que, comme dans la musique pop, les kawals rajoutent de la farine pour que le grave soit encore plus grave dans le tabla grave, quoi. C'est pour renforcer le rythme de la parole. Et puis il y a le dôle, donc il y a un tambour à deux faces aussi qui peut être utilisé. Et puis il peut y avoir aussi des poteries en terre qui sont utilisées avec des bagues en métal. Bon, ben, le rythme est une partie essentielle, d'ailleurs la partie rythmique elle est passée au centre dans le dispositif. Et c'est au centre, devant, hein. C'est celui qui tient toute la colonne vertébrale du récit. Parce que si le kawel principal a le droit d'aller se promener à droite, à gauche, musicalement, etc., il y a une chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de lâcher l'impact, la pulse, quoi. Et jamais, jamais, quel que soit, une fois que c'est rentré, le rythme, c'est fini, on le tient, on le démultiplie, mais il ne bouge pas. Parce que c'est le seul moyen d'amener un auditeur vers la transe. Ce qui est quand même le but suprême. Une fois qu'on rentre dans le rythme, là, c'est là que le gros du dossier commence, parce que la cheese, le poème principal est pris, et à ce moment-là, il est développé à la fois textuellement et musicalement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que souvent, comme vous savez, dans ce continent, les gens appartiennent à plein de petits groupes linguistiques. Et puis en plus, les poètes soufis se sont exprimés en arabe, en persan, en pourbi, en sanskrit, etc., dans toutes ces langues. Donc le génie, en particulier des Punjabis et de Nusrat, c'était justement d'introduire des vers issus de différents poèmes, ce qu'on appelle des ghiras, c'est des nœuds, comme les nœuds d'un tapis pour former une image générale, pour développer justement le thème principal qui était lancé au début du kawali. Et donc, Nusrat pouvait introduire une ghira en persan, en pourbi, en punjabi, etc. Mais sans jamais lâcher le rythme, c'est absolument extraordinaire. Et pour pouvoir avoir quand même le temps de réfléchir à ces inserts poétiques, en général, le chanteur principal relance cette parole à l'autre chanteur, qui s'appelle Avazia, celui qui a la belle voix, qui va reprendre cette parole qui vient d'introduire ce message et va le traiter sous forme de grande vocalise, mais en quittant jamais le sens, encore une fois. Ce ne sont pas des improvisations gratuites comme on pourrait le faire dans le jazz, c'est toujours relié au sens. C'est une calligraphie du mot. C'est-à-dire on emmène le mot plus haut que le mot, dans un au-delà du mot, etc. Et le chœur aussi reprend, bien sûr, entendu, derrière, en soutenant ça par des claps, ce qui vient d'être dit.
नफी भी तेरे होने का पता है मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती अगर वो तू नहीं तो और क्या है
नहीं आया ख्यालों में अगर तू
नहीं आया ख्यालों में अगर तू
तो फिर मैं कैसे समझा तू खुदा है तुम एक
गोरख Le temps de réfléchir. Alors je me souviens plus si Nusrat avait derrière lui un prompteur, comme on l'appelle, mais il me semble que oui. C'est un gars qui est chargé, justement, parce qu'il a des cahiers remplis de textes poésie, de trouver des inserts poétiques qui sont adaptés au sujet qui est traité et au rythme aussi dans lequel ça doit s'exprimer. Donc le prompteur, en général, c'est son nom, hein. Prompteur, voilà, se trouve derrière le chanteur principal pour souffler éventuellement le vers qui pourrait inspirer le chanteur principal. Et donc Nusrat, je sais que c'était un génie de ça. Par exemple... Un jour, il a eu cette idée, il parlait évidemment de l'amour absolu, qui est quand même la thématique centrale, le Eshq des soufis, et il a eu cette idée d'introduire dans son Qawwali deux lignes musicales et poétiques, je veux, d'un Ghazal, qui était très fameux, mais dans un film bollywoodien. Parce qu'en fait, la séparation entre le séculier et le sacré, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les gens puissent dans leur expérience quotidienne, personnelle, pour la transcender et la faire aller vers un amour divin. C'est-à-dire que ce passage continuel de l'humain vers le divin, c'est vraiment une des caractéristiques de ce genre ou du gospel, par exemple. On est dans le malheur de sa vie et grâce à cette élévation que permettent les kawal, on ouvre son cœur et on arrive à la fête de l'âme. Donc en fait, on peut parler de l'amour, de l'état d'amour, et éventuellement aller chercher dans des souvenirs d'un état d'amour ou de la représentation de l'amour qu'on se fait grâce au cinéma ou autre chose, et puis aller vers quelque chose d'autre. Alors c'est ça évidemment qui est considéré comme complètement hérétique par les orthodoxes et pire par les intégristes, qui évidemment mettent des bombes partout aujourd'hui pour empêcher ce genre de pratique et de pensée obscène. Mais chez les soufis, ça se passe pas comme ça. Quand on est amoureux, on est amoureux. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de cling, on s'arrête pas entre la vie et le sanctuaire. C'est une continuité naturelle. Et donc un jour, nous sera cette idée géniale. Donc de prendre ces deux lignes qui disaient « loin de ton regard », donc d'un film bollywoodien où ça devait certainement danser dans tous les sens, et de les introduire dans un qawwali. Et évidemment, sur ce public en demande d'amour, ça a eu un impact fou. Donc il a développé, et puis de qawwali en qawwali, il a tellement développé ces deux lignes, ce Ghazal bollywoodien, que c'est devenu un qawwali à part entière. Aujourd'hui, c'est un qawwali. Je veux dire, on ne sait même plus que ça vient du cinéma bollywoodien à l'origine.
À l'origine, il y a donc un air de 1962 de Noor Jahan, surnommée la reine de la mélodie, car elle a enregistré pour le cinéma de Bollywood avant la partition pas moins de 10 000 chansons, dont celle-ci qui a charmé les oreilles de Nusrat et qui dit en substance
« Viens mon bien-aimé, viens vite. »
Viens mon bien-aimé, viens vite. La passion me torture, je me lamente et je la crie partout. Je suis lasse de t'attendre. Je suis envahie par la solitude. Aie pitié de moi. Mes yeux se languissent de te voir.
Mes yeux se languissent de te voir.
कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है खेल क्या तुमने अजल से ये रचा रखा है रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है देख तदबीर के पंछी को उड़ाने तूने दामे तकदीर भी हर समत बिछा रखा है करके आरायश कौनैन की बरसों तुमने ख़त्म करने का भी मनसूबा बना रखा है लामकानी का बहर हाल है दावा भी तुम्हें नहनो अकरब का भी पैगाम सुना रखा है
Si Nusrat s'est magnifiquement inspiré de Bollywood, Hollywood s'est tristement illustré en utilisant Nusrat, comme ici en 1994 dans la bande originale du film Tueur né d'Oliver Stone.
Nusrat lui-même a dit qu'il n'avait pas été prévenu et pour lui c'était comme une trahison. Il n'aurait pas souhaité être là. Il a dit qu'ils ont enregistré la chanson et puis ils n'ont pas prévenu sur quoi ils allaient jouer. Je trouve que c'est injuste pour un artiste parce que déjà Nusrat, il n'aimait pas, il n'a pas approuvé, il a une mauvaise réputation. Dans son propre pays, ça lui a fait du tort. Et par ailleurs, ce n'est pas du tout, être kawwal, être ouvert, recevoir, c'est un peu comme une éponge, recevoir des bonnes choses par-ci, par-là, ça ne va pas à l'encontre du kawwali. Mais l'utilisation à des fins néfastes, même, je pense que ce n'est pas bien, c'est injuste. Et c'est irrespectueux pour moi.
quelques mois avant, avant sa mort, un de ses, un de ses promoteurs de Londres disant mais c'est incroyable avec Nusrat, c'est fabuleux. Un jour il est à Londres pour un concert, le lendemain à New York pour un autre concert dans un, après Adélaïde, et il revient à Lahore pour un concert sur, pour un pèlerinage, peut-être pas dans ce sens-là, mais bon, de toute façon, il a certainement fait ce sens-là aussi. Hein. Et il était de plus en plus, de plus en plus épuisé. C'est vrai que quand, même quand on l'a eu la dernière fois au théâtre de la ville, il était fatigué.
Saïda Haïder, Nusrat est mort il y a presque 20 ans. Qu'est-ce qui reste de lui au Pakistan aujourd'hui?
Il a laissé plein de clones. Il ne reste plus que Nusrat, en fait. Toute la région du Punjab, tous les nouveaux Qawwali et tout ça. Il n'y a plus de Qawwali après Nusrat, il reste Nusrat.
Il est Qawwali, encore une fois, je veux dire, c'est des gens qui sont dynamiques s'ils ont un public en face. Et le public, malheureusement, il disparaît parce que c'est pratiquement plus possible de faire de Qawwali dans les sanctuaires aujourd'hui. Enfin, tous les Qawwali qui me sont rapportés ont été enregistrés et filmés chez des privés. Je ne sais pas s'il y a encore des Qawwali dans les sanctuaires le jeudi soir, comme c'était le temps, comme c'était le cas avant. Parce que c'est trop risqué. Moi, la dernière fois que je suis allée au Pakistan, ça fait un moment, mais ça fait quand même pas si longtemps que ça. Je gère les principaux sanctuaires du Pakistan avaient été explosés. On avait envoyé des jeunes gens avec des ceintures de dynamite se faire exploser dans ces endroits où on pratiquait ces choses hérétiques. Comme la musique et la danse pour s'adresser aux bien-aimés. C'est affreux parce que c'est un patrimoine phénoménal, à la fois poétique, musical. C'est aussi des gens qui racontent donc toute cette histoire-là, cette histoire extraordinaire que cette rencontre et cette synthèse fabuleuse que la culture musulmane a réalisée au contact de la culture hindoue dans le sous-continent.
Vous qui voyagez beaucoup, Sudabekia, vous êtes allé en Inde, j'imagine que vous êtes allé au Bangladesh, vous allez souvent au Pakistan. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Nusrat a permis, là, 20 ans après sa mort et 70 ans après la partition indienne, d'effacer les frontières du sous-continent indien, puisqu'il réunit des Bengalis, des Indiens et des Pakistanais à travers ses chants?
Beaucoup plus. Vous allez voir en Azerbaïdjan, à Bakou, c'est Nusrat. Vous allez en Asie centrale, les artistes, ils connaissent tous Nusrat. Il est très, très connu en Iran, tout le monde l'écoute, il y a ses cassettes. Ces CD qu'ils ont copiés, ça se vend partout. Non, ça a vraiment dépassé. C'est pas l'Orient, ça a dépassé. Même vous allez au Maroc, on l'écoute parce qu'on était avec lui déjà à Carthage. Non, c'est devenu un phénomène international, je dirais. Parce que même en Angleterre, vous y allez, on écoute. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui connaissent Nusrat, même qui n'ont jamais connu en tant que vivant. Non, ça a vraiment dépassé. C'est vraiment un phénomène qui a dépassé les frontières. Et c'est quelque chose qui est encore très vivant aujourd'hui. Parce qu'en général, les gens, après une mort, quelques années après, on l'oublie ou il y a d'autres choses. Mais lui, il est vraiment vivant.
Nusrat Fatih Ali Khan, le héros du Qawwali, avec la musicienne et musicologue Martina Catella, directrice du centre de recherche et de formation vocale Les Globetrotters, la traductrice et spécialiste du Qawwali Saïda Haïder, Sudabekia, conseillère artistique au Théâtre de la Ville, et Pierre Alain Beau, auteur de Nusrat Fatih Ali Khan, le messager du Qawwali, aux éditions 2001. Texte dit par Myriam Ajar. Une vie, une œuvre. Prise de son Philippe Etienne, mixage Alain Joubert, réalisation Gaël Gillon, une émission proposée par Michel Pomared.
Cette émission est disponible en réécoute et podcast sur le site de France Culture. Vous pouvez nous joindre via les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine pour Une vie, une œuvre, consacrée par Pauline Maucor à la journaliste américaine Martha Gellhorn.